L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Vous avez sans doute remarqué, j'aime bien parler d'engagement sur Volant. J'aime bien parler d'humanité, d'humanisme. Et aujourd'hui, je reçois Radha Atem Ganzer, qui est la fondatrice de la Maison des Femmes, qui est une femme très engagée contre les violences faites aux femmes. Et on va parler de son engagement, évidemment. On va parler de sororité. On va parler aussi de la culture, mais on va parler aussi de l'engagement des hommes sur les violences faites aux femmes, d'éducation. Bref, un épisode qui devrait beaucoup vous plaire, je pense. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour Radha. Vous allez bien?
Bonjour, très bien, vous-même?
Eh ben, ça va pas mal. Donc, je suis avec Radha Atem Ganzer. On se connaît pas? On se connaît pas, en fait.
Bon, on vient de discuter.
On vient de discuter pendant une petite demi-heure.
On a refait le monde.
C'est ça. On se connaît par deux personnes. Ina Modja, que je connais très bien. Et puis Sabrina Erlori, qui m'a dit, il faut absolument que tu la reçoives. Ina m'en avait déjà parlé d'ailleurs. Voilà. Et donc, vous avez fondé la Maison des Femmes, qui aide les femmes qui ont souffert de violences, masculines principalement, majoritairement, exclusivement.
Il y a des violences féminines, il y a des violences maternelles, voilà. On en reparlera.
Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas s'ils sont nombreux, nombreuses, vous pourriez expliquer ce que c'est que la Maison des Femmes?
Oui, bien sûr. Alors très succinctement, c'est un lieu de soins. Puisque nous sommes principalement des médecins, des sages-femmes, des psychologues. Et notre postulat, c'est qu'une femme qui est victime de violences ou de choses extrêmement dures dans sa vie va probablement plus facilement en parler à un personnel soignant. Et que c'est une très bonne façon d'entrer en interaction avec elle et de comprendre pourquoi elle va mal et de lui proposer un parcours de soins. Donc la Maison des Femmes propose ce parcours de soins aux femmes qui ont subi, ça peut être un viol, ça peut être un inceste dans l'enfance, ça peut être des violences conjugales actuelles, ça peut être des violences éducatives, ça peut être des violences à l'école, des cyberviolences, de la pré-prostitution, enfin le nombre de problèmes est immense.
Wow, effectivement. Et comment vous arrivez à faire rompre le silence, parce que souvent, en fait, il y a une chape de plomb. On l'a vu dernièrement, il y a beaucoup de femmes qui, maintenant, avec le mouvement MeToo et autres, qui se permettent, entre guillemets, de prendre la parole, ce qui est largement souhaitable. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que, par défaut, il y avait une chape de plomb avant. Comment on libère cette chape?
Alors, en tant que soignant, on a quand même accès à l'intimité différemment des médias ou du grand public. Il y a la loi du silence, on la connaît bien, c'est celle qui profite aux agresseurs, puisque c'est en faisant régner cette loi qu'ils s'assurent de leur impunité. Donc, plus vous réduisez votre victime au silence, et plus vous êtes tranquille. Lorsque vous êtes avec votre médecin ou votre sage-femme, et que vous parlez de choses intimes et de difficultés spécifiques, forcément, si la personne en face est quand même douée d'empathie, c'est un petit peu formée aux techniques d'écoute, forcément, on va pouvoir aller sur des sujets très personnels et la parole va se libérer. Après, ça ne veut pas dire que nous, chez une femme adulte, on va appeler les médias pour dire « ma patiente, elle a été violée par son prof de tennis ». Mais nous, il y a des choses qu'on sait et que les femmes n'ont pas dites. Ni à leur entourage, ni à personne. Aujourd'hui, évidemment, les femmes se sentent plus légitimes à parler parce que certaines ont osé crever cette chape du silence et cette loi et se disent « alors peut-être que j'ai le droit de parler, moi aussi ». Mais nous, ça fait longtemps qu'elle nous parle.
C'est une vision quasiment holistique de la médecine, finalement, parce qu'en fait, ça prend... Souvent, ce qu'on reproche à la médecine occidentale, c'est de prendre un problème et de le régler, mais sans réfléchir à l'origine du souci. Là, vous avez forcément une vision holistique, c'est-à-dire vous repartez de l'origine du problème. Alors ça peut être très concret quand qu'on a été violé évidemment et qu'on est enceinte et qu'on doit avorter par exemple, mais ça peut être plus insidieux, non, des choses qui remontent à l'enfance ou.
Bah, c'est pas une médecine qu'on peut faire. Enfin, il y a différentes façons d'exercer la médecine, bien sûr. Il y a la médecine d'organes, c'est-à-dire je suis cancérologue et je suis spécialisée dans le cancer du sein. Bon, ben, je vais soigner que des femmes qui ont des cancers du sein et je vais peut-être pas passer une heure à me demander si leur maman était gentille avec elle ou si leur frère leur a violé. Encore que ça aurait été intéressant parce que cette violence-là peut expliquer la survenue d'un cancer, par exemple. Et puis, il y a une gynécologie plus sociale qui, elle, s'intéresse à cette femme, cet être humain qu'on a en face de nous et qui a une vie, qui a des antécédents familiaux, qui a une famille, qui a un métier, qui a un conjoint. Et en fait, on a très vite remplacé à la fois le médecin de famille, le curé de campagne, voilà. Mais il faut aimer faire cette médecine-là, il faut aimer les gens, il faut aimer aller un petit peu dans leur intimité pour mieux les comprendre. Et vous avez raison, en fait, c'est compliqué. Je fais tout le temps ça, mais je viens de voir une jeune fille qui vient me voir parce qu'elle a une sexualité pourrie, qu'elle attribue à son excision. Mais en fait, cette gamine, elle a fui son pays africain parce que ses parents ont été tués, elle est arrivée en France, elle n'avait pas de famille, élevée par l'aide sociale à l'enfance, dans un foyer, vous imaginez qu'est-ce que c'est comme enfance. On ne lui a jamais parlé de sexe, on ne lui a jamais parlé d'émotion, on ne l'a jamais pris dans ses bras. Évidemment qu'elle est en galère avec sa sexualité. Donc voilà, on part de l'excision et on arrive à la douleur de l'enfance et à l'accompagnement. Bon, et ben il va falloir un peu réparer tout ça, ça va être long. Et la réponse que je vais lui donner, c'est pas « je vais te réparer ton clitoris excisé » parce que ça va rien changer que je fasse ça.
Ça va changer, mais enfin, en tout cas, ça peut pas être que ça.
Il faut remonter, il faut reprendre tout à zéro.
J'aimerais bien qu'on se pose deux minutes sur les violences faites aux femmes, parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'hommes qui, à force d'entendre parler des femmes, se disent « c'est bon, en fait, le problème il est réglé ». Alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Et quels que soient les quartiers, quels que soient les cultures, même si dans certaines cultures, évidemment, c'est d'autant plus présent, j'aimerais bien que vous partagiez ce que le concret, je veux dire, aujourd'hui, de ce que vivent un certain nombre de femmes.
Il n'y a pas de... Le tableau est très plein de nuances.
Bien sûr, par essence.
Il peut y avoir des difficultés liées à des violences conjugales dans des quartiers extrêmement huppés, avec des femmes qui ont fait des études, qui n'ont pas de problèmes financiers, mais qui se retrouvent dans une relation toxique, dans une relation d'emprise dont elles ont du mal à se défaire. Tout comme vous pouvez avoir contracté un mariage par internet au fin fond de votre Maghreb et être arrivé en France et tomber sur un imposteur qui en fait avait juste envie d'une bonne et peut-être d'une esclave sexuelle. C'est pas tout à fait la même histoire, mais l'expression de la violence est la même, c'est-à-dire que c'est l'emprise d'un être humain sur un autre et il se fait que il est plus fréquemment en défaveur d'un homme sur une femme. C'est ce qui est le plus fréquent. Mais on le retrouve aussi dans toutes les situations où il y a du pouvoir. Puisqu'on voit aujourd'hui que dans tous les domaines où il y a des enfants en situation d'emprise par des adultes, donc que ce soit le sport, que ce soit l'église, que ce soit le cinéma, que ce soit l'école, le processus est le même. Et il intervient aussi bien sur les petites filles que sur les petits garçons. Donc dès qu'il y a pouvoir, emprise, toute puissance et sexualité, on se retrouve dans ce genre de dynamique.
Est-ce que vous dites ce que vous essayez de faire Alors, pas à travers la Maison des Femmes, je pense pas, mais si, en fait, aussi à travers la Maison des Femmes, d'ailleurs, c'est de l'éducation, c'est-à-dire, en fait, ça part, le problème, il doit partir de la racine, c'est-à-dire expliquer aux adolescents comment mieux vivre leur sexualité pour qu'ensuite ils deviennent des parents, enfin, ou des parents, en tout cas, qu'ils aient une sexualité plus épanouie, en tout cas, moins violente par essence. C'est vraiment ça la démarche ou... Enfin,
oui,
une partie de la démarche, en tout cas.
Oui, ça fait partie de... En fait, la Maison des Femmes, c'est aussi et surtout un très gros planning familial. Et dans les missions des centres de planification en France, il y a aller vers les adolescents et les moins adolescents, les plus jeunes, pour leur parler d'émotions, de vie affective, de vie sexuelle. Et aujourd'hui, autant pendant un moment, c'était très prévention. Fais attention à ne pas tomber enceinte, fais attention à ne pas attraper des maladies. Voire même chez les garçons, je pense que c'est important, fais attention à ce qu'une fille ne tombe pas enceinte de toi si tu veux pas être papa. Donc protège-toi. Aujourd'hui, on balaye plus large, c'est-à-dire on parle aussi cyberviolence, on parle aussi violence intrafamiliale, on parle aussi d'inceste éventuellement, d'excision. Donc on essaye d'ouvrir le dialogue complètement avec ces jeunes pour que, un, ils puissent, si jamais ils sont concernés, comprendre qu'il y a des lieux qui sont faits pour eux, qui sont les centres de planning, où ils peuvent aller parler, où ils sont accueillis, où c'est discret, leurs parents ne le sauront pas, et ils trouveront toujours de l'aide. Ça, c'est essentiel. Et aussi pour les amener à se questionner. Et c'est toujours très intéressant d'aller rencontrer ces jeunes, parce qu'ils ont des idées toutes faites. Genre la sexualité, c'est ce que je vois sur YouPorn, c'est la violence, c'est plusieurs mecs sur une fille, c'est une fille qui fait semblant de pas vouloir mais en fait elle veut, et tout ça avec qu'il faut déconstruire progressivement, c'est tout ce qui est les échanges aujourd'hui de sextape, de cyber porno et tout ça.
Et il y en a qui en ont fait les frais dernièrement.
Voilà, donc hier j'ai rencontré un groupe de jeunes filles et c'était du gâteau pour moi de repartir de Benjamin Griveaux pour leur dire vous voyez ça arrive même à ceux qui se croient très malins, donc ça risque de vous arriver vous aussi les filles, faites attention. Et elles n'ont pas du tout cette notion-là. Et puis sur tout un tas de sujets, où je prends l'IVG par exemple, il n'y a pas une rencontre où un garçon ou une fille ne me dit pas « mais docteur, vous tuez des enfants quand vous faites des IVG ». Vous êtes un assassin, est-ce que vous dormez bien la nuit? Bon, ben là encore, ça, je prends la demi-heure qu'il faut pour reparler de qu'est-ce que c'est qu'un enfant, qu'est-ce que c'est que désirer un enfant, qu'est-ce que c'est qu'élever un enfant quand on a 12 ans. Et ça nous amène à énormément de sujets et c'est toujours passionnant.
Et souvent, quand on parle de violence, moi ce que j'ai constaté, déjà dans ma vie, mais aussi dans la vie d'autres personnes, c'est qu'on a, comme on a une seule enfance et que nos parents, ils nous aiment, et pour nous, c'est la manière ultime d'être aimé, finalement. On ne se rend même pas compte, nécessairement, qu'on a eu une enfance qui était violente. Et je le vois, donc j'ai la mère d'une amie qui a été violée par son père. Et en l'occurrence, elle dit quasiment que pour elle, c'était une forme de normalité. Enfin, pas de normalité, mais il y avait ce truc où elle se rendait même pas exactement compte de ce qui se passait. Et ça peut être évidemment moins grave que ça. Il y a aussi ça, peut-être, quand on en parle avec des jeunes, de leur faire réaliser qu'en fait, c'est pas une situation normale, je sais pas.
Bien sûr, que ce n'est pas de l'amour, que ce n'est pas un droit, que tous les pères ne font pas ça à leurs filles, et toutes les mères ne font pas ça non plus. Et c'est compliqué parce que a priori on aime ses parents, a priori on pense qu'ils sont bienveillants et que ce qu'ils vous font part d'une histoire d'amour. Et beaucoup de pères ou de parents, d'oncles, de grands-pères, de grands-frères, violeurs et agresseurs sexuels, expliquent que c'est parce qu'en fait, je t'aime beaucoup et que tu es très importante et particulière et nous avons un secret, cette relation que nous avons et que tous les autres nous envieraient si tu la connaissais, il faut surtout pas que t'en parles. Et effectivement, l'enfant, ça rend fou. C'est mon père, il est supposé m'aimer très très fort et me protéger. Et en fait, ce qui me fait me rend malade. Comment je peux interpréter ça? À qui je peux en parler? Est-ce que je ne suis pas en train de détruire ma famille? Est-ce que j'ai envoyé mon père en prison? Est-ce que je ne vais pas être responsable d'un schéma horrible qui va nous arriver tous? C'est une responsabilité terrible pour un enfant. Et on ne le dit pas assez, même si on commence à le dire beaucoup. La famille, qui est le lieu normalement de la tendresse et de la protection, est très souvent le lieu le plus dangereux du monde.
Ça fait peur. D'où l'intérêt d'avoir des enfants qu'on souhaite avoir, n'est-ce pas?
Ah oui, ah oui.
Et avec les bonnes personnes.
Un enfant désiré, c'est tellement mieux.
C'est tellement. Et avec la bonne personne.
On ne sait pas toujours à l'avance, on n'a pas tous des boules de cristal.
Non, malheureusement. Non.
Mais par contre, effectivement, quand on s'aperçoit que ce n'est pas la bonne personne, ne pas se mettre d'œillères, ne pas se dire « non mais il faut que je préserve ce lien à tout prix ». Parce qu'on le voit quand la justice, par exemple, veut à tout prix préserver le lien avec le géniteur, c'est souvent dans ce sens que ça se passe, ça pourrait être avec la mère si la mère est maltraitante, mais de cette obsession du biologique et du lien, parfois conduit à prendre des décisions catastrophiques pour l'enfant, parce que en fait, il y a des parents avec lesquels il faudrait surtout pas maintenir de lien. C'est un lien toxique.
Ouais, c'est difficile, j'imagine.
Oui, c'est difficile. Et d'ailleurs, ça fait pas longtemps qu'on peut en parler sereinement et qu'on dit, bah non, pas forcément garder le lien avec un parent violeur, abuseur ou qui a tué ta mère, c'est pas forcément la meilleure chose du monde à faire.
Et alors, moi, il y a un sujet que je voulais aborder aussi avec vous, parce que vous êtes une femme, jusqu'à preuve du contraire. Vous aidez des femmes. Donc, il y a un sujet qui est la sororité, moi, que je trouve hyper intéressant, parce qu'on parle beaucoup donc, de fraternité. On en a beaucoup parlé, c'est dans voilà, liberté, égalité, fraternité. Donc, voilà, il y a tout ce débat fraternité, sororité. Il y a même des gens, je pense, qui ne savent même pas ce que c'est que la sororité. Donc, l'inverse de la fraternité, qui ne voit même pas le problème dans le mot fraternité, d'ailleurs. Est-ce que les femmes sont nécessairement bienveillantes avec les femmes? Est-ce qu'il faut être une femme pour être bienveillante avec les femmes? Il y a quand même toutes ces questions-là que moi je me pose et qui sont des sujets que je trouve importants, en fait.
Bien sûr, parce que c'est contre-intuitif. On pourrait se dire, ah bah oui, il y a que les femmes qui peuvent comprendre les femmes, ou il y a que les femmes qui peuvent être sympas avec les femmes. Mais c'est faux. Il y a autant de femmes sympas que de femmes pas sympas. Et le contraire, pour les hommes, est aussi vrai. Alors oui, on a d'abord des problèmes sémantiques. Les droits de l'homme, c'est embêtant. Et on a beaucoup de mal à les faire remplacer par les droits humains. Et liberté, égalité, fraternité, ça peut piquer. On pourrait dire, ah ben non, il faudrait mettre humanité, parce que si on met sororité, ça va pas non plus. Il faudrait trouver un mot qui soit inclusif et pas exclusif. Alors, il y a des femmes géniales, il y a des femmes qui effectivement s'enthousiasment pour aider d'autres femmes ou créer des situations d'entraide, et j'en connais plein. Mais c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va obligatoirement être super aidant pour des femmes. Il y a des patientes qui disent « le pire gynéco de ma vie, ça a été une femme. Et quand j'ai eu un homme gynéco, il a été beaucoup plus doux. Et pourquoi pas ? Je pense que c'est plus des êtres humains qui sont violents ou peu empathiques ou inattentifs qu'une question de sexe. »
Ok. Et alors, tout à l'heure, on parlait d'éducation. Quel est le rôle, selon vous, de la culture dans les violences faites aux femmes? Parce qu'il y a aussi ce rôle-là, nécessairement. Enfin, quand on parle d'éducation, il y a forcément une question de culture. Comme tout est croyance, en réalité, on peut tout réinventer aussi. Le principe même de la croyance, c'est qu'on peut la réinventer. Mais le rôle de la culture est assez présent. Vous êtes libanaise, d'origine. Il y a évidemment une position de la femme qui est différente au Liban qu'en France, par exemple, enfin, je suppose, comme c'est le cas en Asie, comme c'est le cas dans d'autres pays. C'est quoi, selon vous, le rôle de la culture?
C'est un rôle essentiel, parce que en fait, ça nous donne des référentiels, notre culture. Et quand dans votre référentiel, depuis toute petite, on vous a inculqué, et vous l'avez complètement intégré, qu'une fille, c'était pas la même chose qu'un garçon, qu'une fille, ça n'avait pas les mêmes droits, ça pouvait pas s'habiller pareil, ça pouvait pas sortir pareil, qu'on n'investissait pas pareil. Que par exemple, s'il n'y a pas assez à manger pour tout le monde, et ben les bons morceaux de viande va aller au garçon, parce qu'il en a plus besoin, bien sûr. si tout le monde ne peut pas aller à l'école, c'est le garçon qui va aller à l'école, parce que la fille, on va l'investir à aider sa maman dans les corvées ménagères, à torcher les petits, à l'aider à la lessive, etc. Donc quand, depuis toute petite, on vous a expliqué ça, c'est vachement difficile pour vous après de vous dire « Non, mais en fait, je suis un homme comme les autres et j'ai les mêmes droits et les mêmes devoirs et je peux devenir astrophysicienne si je veux. » Ça, c'est vachement difficile. Quand on vous a toujours élevé dans l'idée que la femme obéissait à l'homme, la femme appartient à l'homme comme la pomme au pommier, je crois, disait Napoléon Bonaparte, mais que vous avez intégré ce truc-là, eh bien, si votre mari vous viole et vous frappe, quelque part, vous dites, c'est mon job, c'est mon devoir conjugal. Donc, plus vous êtes élevé dans cette culture qui fait une vraie différence de valence entre les sexes, comme disait Françoise Héritier, et plus vous l'intégrez comme étant la norme. Ce qui fait que quand ça devient trop, vous vous mettez un temps fou à vous dire, mais en fait, non, il n'a pas le droit de me faire ce qu'il fait. Et c'est très difficile à verbaliser, à exprimer. Donc oui, la culture n'aide pas les femmes. Et plus ce sont des cultures traditionnelles, avec des tas de coutumes très 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 néfastes, il y a l'excision bien sûr, mais il y a le repassage des seins, il y a le lévira qui vous oblige à épouser votre beau-frère quand votre mari est mort, il y a le fait de vous faire enterrer vivante avec votre mari. Toutes ces traditions-là, elles vont dans le même sens, c'est-à-dire que la valeur humaine d'une femme n'est pas grand-chose et se mesure à l'aune de son conjoint ou de sa famille. Mmh. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui viennent donc des pays du Maghreb ou du Proche-Orient, qui disent « j'en ai marre que l'honneur de ma famille soit entre mes cuisses ». Ça en dit long.
Effectivement. Et alors, moi, j'aime bien parler d'engagement aussi. Donc, vous avez un engagement qui est très fort. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent engagés, qui parlent beaucoup, en fait. C'est-à-dire qu'ils s'engagent sur Instagram. Mais en réalité.
Oh, c'est méchant, ça.
Non, c'est pas méchant. Je constate que. Et je me dis pas meilleur que les autres, attention. Mais vous avez un vrai engagement, parce que vous faites les choses, vous aidez les femmes dans un certain quartier, en tout cas, dans le quartier. Comment, en fait, enfin, après, avec le recul, votre expérience, comment une femme, aujourd'hui, qui se dit féministe, ou en tout cas qui a envie de s'engager dans une certaine mesure, dans une forme de sororité, comment elle peut s'engager aujourd'hui? Parce qu'il y a, évidemment, tout le monde n'est pas gynéco, donc on peut pas aller aider, enfin, je veux dire, on va pas s'improviser gynéco, on va pas s'improviser psychologue, même s'il y a plein de gens qui le font, ou coach, mais comment je peux m'engager? Si moi j'ai pas les compétences particulières pour le faire,
eh bien c'est très facile. Je crois qu'il faut qu'on fasse surtout ce qu'on sait faire bien. Alors moi j'ai de la chance, je suis gynéco, donc ce que je sais faire bien, c'est m'occuper des femmes. Enfin j'espère. Donc voilà, je fais ça à fond et j'en suis très heureuse. Si vous n'avez pas de compétences spécifiques, vous pouvez inventer autre chose. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, si vous êtes un super trader, vous gagnez plein d'argent, et avec l'argent dont vous n'avez pas besoin, vous décidez d'aider quelqu'un qui fait des trucs. Ça, déjà, c'est merveilleux. Après, il y a plein d'autres métiers où vous pouvez aider, même marginalement. Là, je viens de rencontrer une jeune femme qui est juriste et qui, elle, extrêmement sensibilisée par les violences faites aux femmes, a décidé de démissionner de son cabinet d'avocat et de monter une espèce d'association de juristes qui vont venir aider les structures comme la nôtre qui prennent en charge les femmes. Donc, elles sont pas gynéco, mais elles vont faire ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire accompagner les femmes dans leurs droits. Vous pouvez être policier et venir à la maison des femmes, donner 2 heures de votre temps bénévolement pour rencontrer des femmes et leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'une plainte, qu'est-ce que c'est qu'aller au commissariat. Donc, il y a plein de choses et vous pouvez, moi j'ai beaucoup de jeunes filles, malheureusement c'est des jeunes filles, qui sont chez Danone, chez L'Oréal, et qui s'ennuient et qui trouvent que ce qu'elles font n'a pas de sens et que vendre plus et plus des choses à des gens qui n'en ont pas besoin, c'est absurde, et qu'elles cherchent du sens. Donc elles viennent et on essaie de trouver comment elles peuvent aider, et il y a mille et une façons d'aider. Ça peut être aider à organiser une soirée de gala, comme notre amie commune, ça peut être aider à monter un colloque sur les violences, ça peut être organiser des, je sais pas, le Noël des enfants de la Maison des Femmes. Donc, ce travail dans ce lieu particulier m'a permis, par exemple, d'être en contact avec, je sais pas, ça doit faire au moins 80 jeunes femmes qui sont passées 15 jours, 3 semaines, 6 mois, 2 ans avec nous, qui n'avaient aucune compétence en santé, ni même en santé publique, et qui ont chacune apporté quelque chose d'extrêmement précieux à notre action. Et je pense que si elles l'ont fait avec nous, ça peut être fait n'importe où.
Parce qu'on rappelle que vous êtes une association. C'est ça, c'est une association?
On a 2 jambes. On est une unité de soins de l'hôpital, mais aussi on est une association, ce qui nous permet de faire du plaidoyer, de lever des fonds et de communiquer très spécifiquement en dehors de l'hôpital.
Donc on peut simplement vous donner de l'argent?
On peut aussi nous donner de l'argent.
Tout simplement.
On promet juste de l'utiliser à bon escient, ça c'est sûr.
Pas mal. Une question, parce que depuis tout à l'heure on parle des femmes qui aident les femmes. Comment on sensibilise les hommes? Pourquoi? Enfin, j'ai la sensation que les hommes sont pas forcément très sensibilisés à la question, ou en tout cas un peu à distance. Je sais pas s'ils avaient une lecture de ça ou pas, parce que j'imagine que vous avez aussi discuté avec des hommes dans le parcours.
Oui, ça m'arrive.
je suppose.
Je ne refoule pas les hommes.
C'est ça, n'est-ce pas? Comment on fait pour plus les sensibiliser, pour pas leur dire finalement c'est pas un problème C'est pas le problème des femmes, c'est le problème de l'humanité, en fait, concrètement.
C'est l'essence même de notre combat, c'est-à-dire sortir ces histoires de violences familiales du giron des affaires de bonnes femmes et les poser sur la table en disant c'est l'affaire de tout le monde. Parce que dans les familles violentes, il y a des enfants. Et ces enfants sont des deux sexes et l'impact des violences sur eux est aussi grave sur les petites filles que sur les petits garçons. Et donc peut les conduire à reproduire ou à reproduire le fait d'être victime. Donc c'est fondamental, je veux dire, c'est aussi important que l'éducation. Et nos politiques devraient se préoccuper, autant que de l'économie, de ce qui se passe dans les familles et des violences. Parce que très longtemps, on a dit « ça ne me regarde pas ». C'est des histoires de famille. Et c'est ce que disent les Russes, d'ailleurs. Ils disent « les violences, c'est dans la famille ». Ils ont tous les droits, j'interviens pas. C'est pour ça qu'en Russie, il y a, paraît-il, 16 femmes qui meurent par jour. Chez nous, c'est une tous les 3 jours.
C'est ça. Mais je crois de mémoire, en Russie, quand on frappe sa femme une fois, c'est légal. Mais si on la frappe une seconde fois, ça devient plus légal. Mais
il y a quand même. J'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu que c'était parfaitement légal parce que ça regardait personne, ça se passait dans la famille.
Ah ouais, c'est vrai.
Il faut sortir cette histoire de la famille. Ça, ça concerne tout le monde. Donc les hommes sont concernés. Après, il y a beaucoup d'hommes qui sont plutôt bienveillants et qui n'ont jamais croisé ce genre de choses et qui pensent que ça n'existe pas, ou alors loin, ou chez les pauvres, ou chez les migrants, et qui, quand ils sont confrontés plus directement à des amis chez lesquels ils n'imaginaient même pas que c'était possible, parce que, évidemment, les femmes sont de très grandes menteuses et qu'elles masquent tout et qu'elles sont capables de donner le change.
Exagère.
Non. Ce que je veux dire, c'est qu'une femme, par exemple, va subir des choses et faire bonne figure et dire « mais non, tout va bien », mettre des lunettes de soleil, du fond de teint, des manches longues pour masquer des trucs. Et il y a parfois des hommes qui tombent de l'armoire en s'apercevant que leur meilleur pote, celui qui a l'air si sympa, qui est si drôle et si généreux, est en fait un tyran et une ordure à la maison. Donc quand les hommes se rendent compte que c'est assez proche de chez eux, tout ça, leur regard change et je crois qu'il faut faire beaucoup de pédagogie avec eux. Mais je crois aussi que la génération d'après, les trentenaires, de ce que je peux en voir, ont mieux intégré que leurs parents cette idée d'égalité, de respect, de partage. Et que peut-être que l'avenir va venir de là, enfin que la solution va venir de ces jeunes qui, mieux que nous, ont compris que notre planète n'était pas une poubelle et que les femmes étaient leurs égales et qu'il fallait repenser le couple et repenser l'éducation.
Le lien, l'éducation, le lien. Parce que je disais tout à l'heure, effectivement, elles exagèrent, parce que ça peut être là. Moi, j'ai vu ça chez des hommes, de premier abord, la première réaction qui fait « peut-être qu'elle exagère » et en fait qui défendent... Ça peut arriver, en tout cas.
Bien sûr, combien d'hommes ont compris que leur meilleure amie était une ordure, mais ont mis des semaines avant de l'accepter. Mais c'est pas possible, je le connais bien, c'est mon pote, on a fait les 400 coups ensemble. Il peut pas faire ça. Mais si, il fait ça, sauf qu'il te l'a pas dit. Donc oui, c'est pas toujours évident à intégrer. Mais je crois qu'une fois qu'on l'a compris, on regarde les choses autrement. Et je pense que plus la parole va se libérer, plus les femmes vont parler, et moins les hommes pourront dire « non, elle exagère, c'est pas possible ». Et c'est même vrai chez les policiers, parce que les policiers, leur première réaction, c'est de dire « non, mais pas tout ça pour ça, enfin, c'est pas très grave, enfin, c'est votre mari, c'est le père de vos enfants ». C'est des réactions complètement patriarcales, qui n'aident pas.
Non, ça c'est sûr que ça aide pas des masses. Je voulais vous demander, donc c'est la dernière question de ce podcast, mais elle est importante. À quoi vous voulez ouvrir ou claquer la porte ?
J'aime pas claquer les portes.
Bah, il faut l'ouvrir alors.
Mais justement, moi j'ouvre et j'essaye vraiment d'ouvrir la porte aux jeunes. Parce que toutes ces jeunes dont je vous parlais qui sont venues nous voir, et c'est aussi un effort d'accueillir des jeunes parce qu'on prend sur notre temps, on leur explique des trucs, on essaie de les engager avec nous, ça a toujours été un cadeau en retour. Donc j'ouvre grand la porte aux jeunes et j'aimerais que parmi ces jeunes, il y ait plus de garçons. On en a eu très peu.
D'accord. Et alors aujourd'hui, la Maison des Femmes, ça se développe, hein, je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est en Seine-Saint-Denis, mais il y a d'autres structures qui sont en train de se créer aussi.
Oui, on a une première petite sœur qui est née à Bruxelles, une autre à Bordeaux. Aujourd'hui, l'assistance publique de Paris envisage d'en ouvrir deux. Une à Bichat, une à la Pitié, à Brive, à Strasbourg, peut-être à Caen, peut-être à Plaisir. Il y a plein de petits projets qui sont en train de frétiller.
Et si on veut aider, on peut donc soit donner de l'argent, ce qui est totalement, hein, j'imagine, sur vos sites web, mais aussi
très facile.
Voilà, très facile. Mais aussi peut-être y aller tout simplement, aller au contact.
On peut donner de l'argent. On peut donner de son temps, on peut donner de ses compétences, parce que le pro bono, c'est pas un vain mot. Il y a maintenant des boîtes, par exemple, qui libèrent, et je trouve ça génial, leurs salariés un jour par semaine, à condition qu'ils aillent travailler dans une association. C'est-à-dire, vous pouvez être cadre chez EDF et venir un jour par semaine m'aider à faire des statistiques pour mes projets de recherche, de mesures d'impact, par exemple. Si vous êtes un champion du monde d'Excel, ça peut aider. Voilà, ce genre de choses. On peut aussi venir à notre soirée de gala, le bal des sorcières, le 28 avril, en prenant une table et participer aussi au développement des maisons des femmes un peu partout en France.
Super. Merci beaucoup, Rada.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre